Voici le journal d'Estelle Schmitt. Bonjour Estelle.
Bonjour. Nous sommes des êtres humains, nos vies comptent partout dans le monde, les mêmes mots en toutes les langues dans les cortèges contre le racisme et les violences policières en France. Plus de 23 000 personnes, manifestation plus fournie aux États-Unis. Près de deux semaines après la mort de George Floyd, la contestation ne s'éteint pas, bien au contraire. Nous serons à New York dans ce journal. Toute une vie à réapprendre pour les malades les plus gravement atteints par le coronavirus. La sortie de réanimation n'est pas la fin du parcours hospitalier, on le verra, alors que les scientifiques planchent toujours sur un vaccin. Vaccin, il en sera également question avec votre invité à 8h20, Eric.
Oui, Patrick Zilberman, il est historien de la santé et il publie « La guerre des vaccins » chez Odile Jacob. Vos questions sur les pro-vaccins, les anti-vaccins, c'est au 01 45 24 7000.
Dans ce journal également, quand la crise du Covid coûte cher aux petites communes, Cuba relativement épargnée par le coronavirus, et puis rencontre en fin de journal avec de belles personnes, c'est de la BD.
France Inter.
Presque tous les rassemblements étaient interdits en France, notamment pour des raisons sanitaires. Mais à Lille, Bordeaux, Rennes ou encore Marseille, les appels à rester chez soi bravés. Des milliers de personnes dans la rue, ras-le-bol du racisme et des brutalités policières. 23 300 manifestants dans tout le pays, selon le ministère de l'Intérieur. À Paris, deux rassemblements interdits, notamment sur le Champ de Mars, où Ariane Grissel a rencontré Stéphie, déterminée à se faire entendre.
J'ai envie d'être actrice, pas spectatrice. Depuis 63, le discours de Martin Luther King, il n'y a rien qu'à changer en fait. On nous appelle enfants d'immigrés, on nous appelle noirs, mais avant tout je suis française, je suis citoyenne française, je suis maman de deux enfants, bientôt trois, et je veux pas que mes enfants grandissent dans de telles conditions en fait. Je veux juste qu'on entende ma voix, qu'on fasse pas attention à ma couleur de peau, qu'on fasse pas attention à ma mélamine, et qu'on réalise que je suis une personne et un être humain. Et que les droits, on n'en a pas juste à moitié, on n'en a pas juste quand il faut gagner une Coupe du Monde ou quand il faut être à l'Eurovision ou autre. Je veux juste dire qu'on est des êtres humains et on compte. Je suis pas là pour diviser, c'est pas une lutte anti-blanc ou anti-quoi que ce soit. Je suis là vraiment pour l'union de tous en fait, l'union de tous.
Voilà, Stéphie rencontrée par Ariane Grissel à Paris, des cortèges français contre les violences policières globalement calmes, quelques tensions tout de même, et des incidents à Metz où le procureur de la République a été légèrement blessé, précision Marie Roussel.
C'est au moment où des manifestants cherchent à entrer à l'intérieur du tribunal que Christian Mercury est blessé. Le procureur de la République de Metz vient simplement constater les dégâts, mais il croise la route de quelques manifestants ayant réussi à forcer le passage. Et reçoit un projectile au niveau du visage. Pas de blessure grave, mais un passage à l'hôpital pour Christian Mercury qui s'en sort avec une plaie sur le nez. Au parquet de Metz, on est choqué des mouvements de foule et on se demande encore comment on peut s'en prendre à un bâtiment qui a survécu à la guerre, surtout alors que ce mouvement se veut pacifiste. Du mobilier est dégradé, comme la grande porte qui est légèrement brûlée. La conciergerie proche de l'entrée a également subi quelques dégâts.
Marie Roussel, France Bleu, Lorraine, une dizaine de personnes interpellées. Et pas d'incident signalé aux États-Unis dans les cortèges, dans des dizaines de villes où la colère ne retombe pas près de deux semaines après la mort à Minneapolis de George Floyd, cet Afro-Américain asphyxié par un policier blanc. Des dizaines de milliers de manifestants dans le pays, à Washington, capitale fédérale, défilés jusque sous les fenêtres du président Donald Trump qui passe le week-end à la Maison-Blanche. Du monde, même si on est loin du million de personnes espérées par les organisateurs. À New York également, plusieurs rassemblements et des manifestants qui n'ont pas l'intention de mettre fin à leur mouvement, Loïc.
Des masques, des bouteilles d'eau ou des barres de céréales, tout est gratuit. C'est Tissa qui distribue derrière une table installée à l'entrée de Washington Square Park. Ici, les gens peuvent avoir de l'eau, des lingettes. Comme ça, quand ils sont là, ils peuvent s'amuser, rester autant qu'ils veulent. Ainsi, on pourra continuer pendant des semaines, se rapprocher de la présidentielle. Ce serait le mieux, histoire que personne n'ait le temps d'oublier. Un peu plus loin, au soleil, entre deux averses, des milliers de personnes écoutent comme au premier jour les orateurs se succéder sur une scène de circonstance. Jelen, comme Tissa, pense que le mouvement va durer. La crise sanitaire, dit-elle, n'y est pas pour rien. Les gens ont pu ralentir, prêter attention. Nos cerveaux ne débordent pas d'interférences sociales. On ne pense pas au travail, à nos amis, à la salle de sport. C'est le moment parfait pour ce mouvement. Quant à l'arrestation des policiers à l'origine de la mort de George Floyd, ce n'est qu'un début, affirme son ami Chauncey. Ces quatre policiers vont en prison, mais comment sait-on que ça ne va pas se reproduire dans une semaine? Et puis ils ont juste été inculpés, on attend encore justice, ils doivent être condamnés. Alors on doit rester jusqu'au bout. Jusqu'au bout, une journée après l'autre, plusieurs rassemblements sont encore prévus à New York ce dimanche. New York, Loïc Laurie, France Inter.
Et des manifestations aux États-Unis jusque dans des petites communes plus rurales et 200 personnes à Vidor, c'est dans l'est du Texas, une ville connue pour ses liens avec le Ku Klux Klan.
Une mobilisation mondiale donc sur fond de pandémie et en France, une situation sanitaire qui est toujours à l'amélioration.
Oui, le nombre de malades hospitalisés en réanimation est le plus bas depuis le 18 mars, 1059, 35 de moins selon le bilan d'hier soir. Des malades qui, une fois qu'ils quittent la réanimation, ont encore un long chemin à parcourir, certains des séquelles neurologiques, d'autres intubés pendant des semaines, doivent apprendre à marcher pour certains, reprendre du poids pour d'autres, voire réapprendre les gestes les plus simples du quotidien. À Lyon, l'hôpital de jour Henri Gabriel s'est réorganisé pour accueillir ses rescapés. Reportage Mathilde Amberti.
À 73 ans, Luc réapprend à marcher dans le parc de l'hôpital Henri Gabriel. Il est resté un mois dans le coma.
Petit à petit, faire 500 mètres, très très dur le premier jour. Complètement essoufflé. Et puis maintenant, je fais le grand tour du parc. Donc, je ne sais pas combien il fait, ce parc. Que 800 mètres.
Ça va ? Alors, on est à combien au niveau essoufflement là ?
Nadine, retraitée active, elle aussi travaille à réinvestir son corps avec une psychomotricienne.
J'ai eu la jambe qui a été bloquée et tout le côté droit, le bras droit aussi. On a envie d'avancer, on veut, mais le corps, il ne suit pas.
Larry, pas même 60 ans, tombe malade brutalement en mars. Il n'avait jamais été hospitalisé.
Pendant 10 jours, j'ai eu de la fièvre. Après, en 2 jours, j'ai perdu toutes les forces, la respiration aussi. Bon, j'ai perdu en muscle, j'ai perdu 10 kilos, donc il fallu réactiver tout, avec l'aide bien sûr du service hospitalier, parce que ça a été mes sauveurs d'ailleurs, j'en ai dit.
Les soignants travaillent l'aspect psychologique aussi, et ce traumatisme d'être passé si près de la fin.
J'ai vu ma petite fille hier, pour la première fois aussi. J'ai dit, on va mettre les gants, on va mettre le masque, et tu vas me serrer très fort. Voilà, elle m'a serré très fort, et voilà, elle m'a dit, Mananou, t'es là, voilà.
Lyon, Mathilde Imberti, France Inter.
Et 29 142 personnes sont mortes en France depuis le début de l'épidémie. Les règles sanitaires toujours strictes en cette deuxième phase de déconfinement, mais ces règles pourraient être allégées d'ici fin juin pour les enfants à l'école, notamment pour les repas, les récrés ou le sport. C'est l'avis en tout cas du président du conseil scientifique Jean-François Delfrécy dans le journal du dimanche. Les entreprises, on le sait, durement frappées par la crise du coronavirus, mais il n'y a pas qu'elles. Les communes ont dû également mettre la main au portefeuille pour différentes raisons, comme les achats de masques notamment. Mais avec un budget déjà tendu, certaines communes tirent la langue. C'est le cas d'Aveluy, 3200 habitants dans le nord où s'est rendue Farida Noir.
Jean-Paul Riclinck, le maire d'Aveluy, a fait les comptes. La crise Covid coûte cher à la petite commune.
40 000 euros. Les masques chirurgicaux, les masques en tissu, plexiglas, désinfectants, les charges par rapport au personnel, en heures supplémentaires par rapport à toutes les désinfections des bâtiments.
7 000 euros aussi de manque à gagner pour la mairie qui n'a pas pu louer la salle des fêtes pendant le confinement. Elle a aussi dû aider certains habitants en distribuant des bons alimentaires pendant la crise.
C'était des gens qui étaient en activité précaire, 50-70 familles qu'on a dû aider.
Des dépenses imprévues alors que le budget de la commune est déjà serré. Il va donc falloir faire des sacrifices, à commencer par le 14 juillet.
Nous allons effectuer le feu d'artifice sans aucune festivité, parce que normalement on faisait des festivités sur 2 jours, des jeux, une kermesse. On a dû annuler aussi nos quartiers d'été, donc un manque à gagner aussi pour le monde associatif, parce que toute l'organisation était basée sur le monde associatif et ça leur fera des rentrées financières moindres pour l'année 2020.
Des associations qu'elle devra aussi aider financièrement.
Avec cette crise du Covid, je demande et je revendique une aide encore plus forte des services de l'État, matériel et aussi financier.
L'État a annoncé un plan d'aide de 4,5 milliards d'euros pour soutenir les collectivités territoriales.
Farida Noir, le second tour des municipales qui se profile, avec lui sans doute un remaniement et cet appel du pied dans le quotidien Le Parisien dimanche de Marlène Schiappa. La secrétaire d'État à l'égalité femmes-hommes dit vouloir faire plus au sein du gouvernement. Elle propose que l'on inscrive dans la loi l'allongement du congé paternité à 1 mois, suggère de créer un congé parent malade ou encore un congé jeune grand-parent. Autre projet, il vient cette fois de la secrétaire d'État à la transition écologique Brune Poirson qui devrait l'annoncer ce matin. Projet de décret pour durcir la sanction pour ceux qui jettent des déchets sur la voie publique et notamment les masques, on en voit beaucoup. L'amende pourrait passer de 68 à 135 euros.
Et alors que l'Amérique latine est le nouvel épicentre de l'épidémie de coronavirus, Cuba se distingue.
Selon le bilan officiel, 83 morts, 2000 contaminés. contamination. Pour une population de plus de 11 millions d'habitants, l'île communiste a tout misé sur la prévention, et notamment ses médecins qui font du porte-à-porte pour détecter des cas. Domiti Piron a suivi l'une de ses visites à La Havane.
Avez-vous de la fièvre, un rhume ou mal à la tête ? Demande l'infirmière. Avec un médecin et deux étudiants, ses blouses blanches masquées visitent chaque famille du quartier. Durant l'épidémie du coronavirus, 28 000 étudiants en médecine ont été mobilisés dans tout le pays. Une habitude, puisque ces visites sont réalisées régulièrement à Cuba pour prévenir des maladies tropicales. Dans le cas du coronavirus, cette recherche active de cas suspects a été cruciale selon l'infirmière Zoé Alonso, qui surmonte sa crainte d'être contaminée en allant chaque jour au contact de la population.
Si on ne le fait pas, comment pourrions-nous savoir qu'une personne chez elle présente des symptômes ? On peut s'en rendre compte une fois qu'elle se sent très très mal et se rend à l'hôpital. Mais dans ce cas-là, il est trop tard alors que ce système permet de prendre en charge le patient dès le début de la maladie et il présentera une meilleure évolution.
En cas de suspicion, le patient est automatiquement isolé à l'hôpital. Un suivi et une attention médicale très appréciés des Cubains, surtout des personnes âgées interdites de sortie qui représentent 20% de la population. Marina Zamora, en robe de chambre, ouvre la porte de l'équipe médicale avec plaisir.
Ils viennent nous voir chez nous, nous n'avons pas à nous déplacer. Moi, je suis une personne de 80 ans, j'ai été opérée de 4 cancers et je suis toujours là, je vais bien grâce au système de santé cubain.
Un système qui fonctionne grâce à 82 médecins pour 10 000 habitants, c'est 2,5 fois plus qu'en France. Des médecins proactifs durant cette épidémie, payés $50 par mois. Domiti Piron, La Havane pour France Inter.
Au Brésil, à présent, plus de 35 000 morts. Le gouverneur de Rio qui annonce l'assouplissement des mesures de confinement. Réouverture partielle des bars, restaurants, centres commerciaux et reprise de certaines activités sportives. En France, les sportifs professionnels reprennent l'entraînement, notamment ceux qui préparent les prochains Jeux Olympiques de Tokyo. Direction La Rochelle, Charente-Maritime, fief de Charline Picon, championne olympique de planche à voile aux Jeux de Rio en 2016. Forcément, elle a dû adapter sa préparation. Guillaume Batin l'a rencontrée.
Charline Picon nous reçoit dans l'aire de jeu située à quelques dizaines de mètres de sa maison, un quartier qu'elle a arpenté chaque jour pendant le confinement.
C'est un endroit que j'aime bien avec le parc de jeux pour les enfants, donc parfait.
C'est aussi par là qu'elle a couru tous les jours avec son chien.
Medel, viens mon chien, viens mon papa. Ce chemin, c'est celui qui me permettait pendant le confinement d'être à moins d'un kilomètre de la maison. Quel que soit le temps, il fallait aller le promener, on faisait une dizaine de kilomètres par jour. Il a participé à mon maintien en forme grossesse. Medel, viens là mon chien,
un mon gros.
Charline Picon en a profité pour préparer sa reconversion, la création d'un centre de kinésithérapie avec son conjoint qui ouvrira l'hiver prochain. Mais elle n'oublie pas les Jeux Olympiques de Tokyo en 2021 et la courte saison qui s'annonce.
Aujourd'hui, en ayant repris un peu la navigation, je sais que je pourrais être prête pour juillet cette année, mais c'est pas simple, parce qu'en plus la planche elle change l'Olympiade d'après, donc on passe de la RSX qui est la planche pour Tokyo et qui est la planche depuis 2008 à la planche à foil en 2024. Et donc sur 2020-2021, il y aura les deux supports qui vont exister en même temps. On a décidé de s'unir un peu avec le garçon sélectionné en planche pour essayer de faire quelque chose de différent parce que finalement on est sur une préparation complètement atypique.
La prochaine compétition est prévue à l'automne prochain, les championnats d'Europe en Grèce à Athènes. Encore 5 longs mois pour bien se préparer, profiter de sa famille.
T'es prêt ? On rentre ?
Et de son chien.
C'est parti ?
Voilà, reportage signé Guillaume Batin.
Allez, cette initiative à présent pour mettre en valeur une personne du quotidien que l'on admire.
Sa maman, pourquoi pas, puisqu'on les fait aujourd'hui, oui. Les mamans, un proche, une amie, un prof, un petit texte pour les mettre à l'honneur. Ça, c'était l'idée en 2018 du festival de BD de Lyon et de l'auteur Chloé Cruchaudet. Un appel à portrait qui a débouché sur une expo, puis une BD 2 ans plus tard. Aujourd'hui, les belles personnes, enthousiasmant et tendre, selon Jacqueline Pétrose.
Chloé Cruchaudet parvient à allier un dessin virevoltant, des textes simples et la profondeur d'un message, ne jamais se fier aux apparences. Ses portraits d'anonymes sont étonnants et évidemment touchants. 14 figures qui ont changé le quotidien de ceux qui témoignent. Une voisine, Denise, qui passe pour être une sorcière, alors qu'il suffit de pousser la porte de son jardin pour adorer cette vieille dame. Une professeure de philosophie, Madame Neuville, chignon serré, silhouette longiligne, qui paraît si rigide, eh bien elle ne laissera jamais tomber ceux qui ont du mal à suivre. Et puis cet éboueur fou d'opéra qui éclaire la journée des passants. Chloé Cruchaudet adapte son dessin à chaque portrait, mais elle garde une souplesse dans le coup de crayon, une ouverture dans le dessin qui attire notre regard justement sur ce qu'on ne voyait pas. À la fin de cette BD pleine de charme et d'humanité, les retranscriptions des lettres mettant en avant ces personnes avec cette fois un portrait pleine page comme une photo et l'envie pour nous de trouver aussi de belles personnes.
Les belles personnes de Chloé Cruchaudet, c'est chez Noctambule. Et puis de belles personnes et de beaux livres demain à peu près à cette heure-ci dans le journal de 8h d'Inter. Vous connaîtrez le nom de la lauréate ou du lauréat du livre Inter 2020, l'un des rares événements culturels maintenus malgré l'épidémie de coronavirus. Mais le jury présidé cette année par Philippe Lançon, évidemment pas réuni dans la même salle mais en visioconférence. Encore quelques heures de discussion aujourd'hui, de
débat. Ils ont commencé hier, ouais. Ils ont déjà eu une discussion hier après-midi et ils recommencent tout à l'heure.
Plutôt animé, après ce que j'ai cru comprendre.
Avec la grande prêtresse Eva Bétan qui supervise les travaux de ce prix du livre Inter. Merci Estelle Schmitt.